Bonjour et bienvenue chez les astrophysiciennes.
Je suis Frédéric.
Et moi, c'est Nathalie.
Nous sommes astrophysiciennes à l'Université de Montréal.
Et nous travaillons à l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, et l'OMM, l'Observatoire du Mont Mégantique.
Les astrophysiciennes, c'est un endroit où on parle d'astronomie et d'astrophysique de manière informelle et ludique.
On parle de la recherche en astronomie en cours et on aura la chance de discuter avec des chercheuses et des chercheurs de différents domaines.
On est contente de vous accueillir dans notre monde cosmique.
Salut Frédéric!
Salut Nathalie!
Ça va?
Oui!
Peux-tu croire qu'on est rendu à la fin de 2021?
J'ai quand même du mal à y croire. Je pense que je me sens encore en 2020.
En 2020, en mars 2020, le temps est figé.
Le temps est figé pour moi depuis le 13 mars 2020.
Tu te souviens la dernière chose qu'on a faite avant que tout soit en lockdown en mars 2020? C'était aller à Sherbrooke pour un atelier de communication scientifique ensemble.
Ah oui, je m'en souviens. Le monde nous est tombé sur la tête. Hein. Le ciel nous est tombé
vraiment
sur la tête cette journée-là. C'était vraiment une journée particulière.
Ben, c'est ça. Déjà, il y avait déjà eu l'annonce qui a été faite. Donc, tout le monde se regardait avec un peu de méfiance et gardait ses distances un peu. Mais c'était pas officiellement tout fermé encore. C'était comme dans une zone grise.
C'est ça. C'est la semaine suivante qu'on a commencé à laver notre épicerie. Là. On n'y est peut-être pas encore à ce
ouais.
moment-là.
Mais malgré le fait qu'on peut se sentir peut-être encore en mars 2020, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là et en 2021.
Oui, c'est vrai, ça a été quand même des bonnes années pour l'astronomie. Puis je pense que ça vaut la peine de faire une petite rétrospective là, sur cette année qui était un peu différente des autres, mais quand même remplie de belles découvertes astronomiques.
Oui, c'est ça. Une chose qui est comme intéressante avec l'astronomie, c'est peu importe ce qui se passe sur la Terre, les astres continuent à tourner, à faire ce qu'ils ont à faire. Donc, on continue de les observer.
Je pense que c'est rassurant, ça, de penser que la Terre continue à tourner sur elle-même, autour du Soleil, les étoiles...
Elle continue d'être ronde.
Elle continue d'être ronde. Ça aussi, c'est quand même un point marquant, là. C'est rassurant de voir que l'univers continue à fonctionner, peu importe ce qui se passe sur notre planète.
Oui, et puis les humains continuent à explorer aussi. Donc, ça a été une grosse année pour la planète Mars.
Ça a été une grosse année pour la planète Mars. En fait, c'est depuis quand même plusieurs années que ce sont des grosses années pour la planète Mars. Mais cette année, avec la mission Persévérance qui a atterri sur la planète rouge en février dernier, ça a été toute une année. Là.
Oui, oui. Donc, Persévérance, qui est un astromobile de la NASA, et un de ses buts, c'est de trouver des traces de vie extraterrestre, soit présentes ou sinon anciennes. Et on connaît bien une ingénieure, Farah Alibé, qui est devenue une superstar dans les médias. Et je trouve ça vraiment fantastique qu'une personnalité scientifique a tellement pris de place sur la plateforme publique. Je trouve ça vraiment chouette.
Oui, c'est beau, puis c'est beau de la voir que c'est vraiment une scientifique qui travaille sur cet astromobile Persévérance pour vrai et qui a pu en parler à tout plein de gens pour vraiment inspirer tout le monde d'avoir vraiment une pensée positive là, sur l'exploration, sur l'astronomie en général.
Sur la science aussi en général, qui a quand même pris un bon coup en 2021, malheureusement.
C'est pas facile toujours de parler de science, ouais. Mais on est quand même chanceux parce que l'astronomie, ça rejoint beaucoup de gens.
Oui, c'est perçu positivement en général. Donc, Persévérance, qui a fait plein de choses, mais une chose qu'on peut souligner, c'est son petit engin hélicoptère Ingenuity. C'est la première fois qu'on envoie un hélicoptère se promener dans une atmosphère extraterrestre, donc très excitant. Et c'est pas facile parce que l'atmosphère martienne, elle est très mince.
Oui, puis c'est intéressant aussi de voir qu'on a réussi à faire voler un hélicoptère dans un endroit où l'atmosphère est très mince. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire sur Terre quand on est en altitude. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant de voir qu'il existe un prototype maintenant de ce genre d'hélicoptère-là, qu'on a fait voler finalement sur une autre planète, mais que cette technologie pourrait servir même sur notre propre planète.
Oui, pour, par exemple, faire des missions de sauvetage sur l'Everest ou quelque chose comme ça, en haute altitude.
Exactement.
On ne peut pas envoyer des hélicoptères là, en ce moment.
Non, puis même les humains, c'est pas facile. Hein.
Non, c'est ça. Une autre chose qui s'est beaucoup passée pendant cette année, et j'ai des opinions un peu plus mitigées sur ça, c'est la course des milliardaires, vers l'espace. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont faites envoyer dans l'espace. Pas tous nécessairement des satellites scientifiques ou des sondes scientifiques. Donc, c'est une grosse question maintenant. Qui peut contrôler qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace? Comment est-ce qu'on descend les objets qui ne servent plus, qui sont dans l'espace? Qui a le droit d'aller dans l'espace? Est-ce que c'est tout simplement une question d'avoir assez d'argent? Est-ce qu'il faut être qualifié autrement? Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Mais la question, c'est à qui appartient l'espace? J'aurais tendance à dire que l'espace appartient à tous et à personne en même temps.
Ouais.
Si on commence à envoyer des choses dans l'espace, il faudrait avoir des plans de secours pour être capable de savoir comment on va les ôter de l'espace, parce que sinon, on se retrouve avec un déchet, un énorme dépotoir de déchets en orbite autour de notre planète. Donc, on, déjà, sur notre planète, on a des fois un peu du mal à en prendre soin.
Ouais.
Et donc, si on commence à explorer même juste autour de la Terre, puis qu'on commence à laisser tout plein de déchets là aussi, ça semble un mauvais départ pour ce genre d'exploration.
Oui, il y a un certain parallèle qui peut être fait avec l'exploration des océans, l'exploration de l'Antarctique aussi. L'Antarctique, pendant longtemps, a appartenu à personne sauf les pingouins. Mais maintenant, c'est sous-divisé entre plein de pays différents, mais on essaie de garder l'Antarctique relativement vierge, vraiment seulement pour de la recherche scientifique. Tu n'es pas supposé apporter quelque chose dans l'Antarctique et pas le rapporter avec toi. Donc, faut vraiment réfléchir à comment gérer l'espace.
Je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent venir de gens qui ont beaucoup d'argent, qui décident d'investir dans l'astronomie. On peut penser à des missions vers Vénus, par exemple, de petites sondes qui iraient explorer l'atmosphère de Vénus. Ça serait très, très intéressant. C'est un projet qui est mené par Jeff Bezos là, de mm-hmm. Amazon. Donc ça serait intéressant. Mais en effet, quand on pense aux constellations de satellites autour de la Terre, c'est chouette, ça amène de l'Internet. J'aime l'Internet, ça me permet de travailler, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, si on se retrouve à avoir tout plein de satellites en orbite autour de la Terre, est-ce que ça nous empêche de faire de l'astronomie?
Oui, et puis c'est un point intéressant parce que j'ai récemment lu un gazouillis de Elon Musk. Le monde qui me connaissent bien mon opinion sur lui, mais je ne vais pas vous en parler en longueur maintenant.
Non, mais on devient curieux quand même, là.
Je pense que vous allez le deviner avec mes propos qui s'en viennent. Mais il a commenté sur la mission DART de la NASA qui a pour but de dévier la trajectoire d'un système d'astéroïdes binaires pour faire un test, pour voir si on peut détourner justement les astéroïdes. Et il a commenté comme quoi, oui, DART, c'est bien, il faut contrôler les astéroïdes, mais les comètes aussi, c'est très important, c'est des grands dangers. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que ces satellites empêchent la détection et le traçage de ces comètes, les astéroïdes. Donc, il dit qu'on ne fait pas une bonne job, mais lui, nous empêche de faire notre job. En tout cas.
Ah, ça! Et oui, en effet, on a besoin d'avoir un accès à l'espace pour être capable de l'observer. Puis si on nous bloque un petit peu là, de l'espace avec ces satellites-là, bien, en effet, ça...
C'est dur de détecter un astéroïde. On doit fixer le ciel et l'astéroïde, lui, va bouger, mais dans une direction différente des étoiles, parce que c'est pas simplement la rotation de la Terre sur elle-même qui cause le mouvement de l'astéroïde. L'astéroïde bouge lui-même dans le système solaire. Mais lorsqu'on a plein de lignes brillantes causées par des constellations des constellations de satellites, on ne peut pas voir les lignes tracées par les astéroïdes. Donc, peut-être qu'il va y avoir un astéroïde qu'on va manquer à cause des constellations Starlink.
On pourrait penser que le système solaire, on le connaît très, très bien. Mais en fait, on se rend compte que pas tant que ça. On pourrait penser en fait que tous les astéroïdes, par exemple, on les connaît bien puis qu'on n'a donc pas besoin de les chercher. Mais c'est pas le cas. Hein,
découvre encore.
On en découvre encore plein. Donc cette recherche-là est en fait encore tout à fait d'actualité. Puis même dans les plus gros, là, ceux qui peuvent mesurer 140 mètres, par exemple, et plus, on en connaît seulement à 40 %.
Ouais, exactement.
Donc il en reste beaucoup, beaucoup à chercher. Et c'est ce genre d'objets-là qui sont vraiment les plus intéressants et ou les plus dangereux.
Oui.
Une question de point de vue, là, si vous êtes plus dangereux ou
ça
intéressant.
Ça peut être les deux. Ça dangereux, les deux. Intéressant.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, on a besoin de continuer à les chercher. Puis si on ne peut pas le faire, ça, c'est pas idéal. Mais la mission DART, elle est très, très intéressante parce que c'est la première fois qu'on pourrait éventuellement là, réussir en 2022 à dévier un astéroïde. Donc, mm-hmm. cette mission-là a été lancée en novembre, donc tout récemment, au moment où on se parle, Nathalie. Mais d'ici 10 mois à peu près, on devrait être capable de voir si cet astéroïde-là va pouvoir être dévié par le vaisseau qui a été lancé par la Terre.
Oui.
Et ça, pour moi, j'ai l'impression d'être dans un film des années 90.
Armageddon.
Exactement, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Donc là, ici, on n'est pas dans une arme nucléaire ou une bombe pour essayer de faire...
On n'entraîne pas des mineurs à devenir des astronautes.
Non plus. Ça, c'est une bonne comparaison. C'est quand même différent. C'est un vaisseau qui est inhabité, qui a été lancé vers l'astéroïde dans le but de le pousser un tout petit peu, juste pour voir si on est capable de le faire.
Oui.
Donc, c'est vraiment juste de prouver qu'on est capable de le faire ou pas.
Et une sonde naviguée par une autre Québécoise qui travaille à la NASA. Donc, des Québécoises qui se démarquent beaucoup dans le domaine spatial cette année.
C'est vrai, une bonne année 2021.
Ouais. Il y a eu beaucoup de beaux spectacles dans le ciel aussi cette année. On peut parler de l'éclipse solaire partielle annulaire, mais qui était partielle pour nous au Québec, qui a eu lieu en juin. Et on a eu la chance de partager ce moment-là avec beaucoup de personnes à Montréal. Particulièrement, on a distribué des lunettes d'éclipse et on était très contentes de voir. Il y avait un ciel relativement dégagé et beaucoup de personnes qui sont sorties partager le spectacle avec nous, malgré qu'on était encore dans un moment flou de la pandémie.
Et qu'on était aussi très tôt le matin. Oui. Faut noter que c'était vraiment au lever du soleil qu'on pouvait voir ce spectacle-là. C'était quand même beau de voir des gens dans des parcs l'été sortir, parfois en pyjama, pour observer ce spectacle astronomique qui était vraiment donné à tous.
Ouais. Puis il y a eu aussi une autre éclipse partielle, presque totale, de la Lune cette fois-ci. Ça fait seulement quelques semaines maintenant, en novembre. Et ça, c'est moins spectaculaire, mais quand même un très, très beau spectacle. Et encore une fois, difficile à observer parce que le pic a eu lieu vers 4 heures du matin, je pense.
Oui, et pour moi, c'était soit trop tôt, soit trop tard. Je dois dire que je suis restée couchée. Il annonçait des nuages en plus, donc j'ai pas été assez courageuse, mais je pense que toi, t'as pu l'observer un petit peu, là.
Oui, je l'ai observé un petit peu. Il y avait des nuages pendant une bonne partie de la soirée, mais juste après le pic, les nuages se sont dégagés un tout petit peu, puis on a pu voir la lune rouge, qui est causée par... On est quand même capable de voir les rayons lumineux du soleil réfléchis sur la surface de la Lune, mais parce qu'il passe à travers l'atmosphère, il y a un effet d'optique qui arrive et puis c'est plus la lumière rouge qu'on peut voir, donc une lune de sang.
C'est un phénomène moins rare, mais quand même impressionnant à observer.
Absolument.
Et puis pour décembre, ce qui s'en vient ou ce que vous avez peut-être déjà vu là, selon quand vous nous écoutez, c'est la comète Leonard qui va être visible dans le ciel pendant quand même une bonne partie du mois de décembre.
J'espère qu'elle va être visible pour de vrai parce que moi, j'ai manqué Neowise l'été de l'année passée.
C'était tellement beau.
Ah, c'est triste, je suis triste. Mais est-ce qu'elle va être visible même de Montréal?
Je pense que peut-être à Montréal, ça va être un petit peu dur. On n'est pas encore certain exactement de la luminosité maximale là, qu'elle va atteindre. Si vous avez des jumelles, déjà, ça va vous donner une bonne chance de l'observer, beaucoup plus qu'à l'œil nu, parce que même Neowise, à l'œil nu, il fallait se convaincre qu'elle était où on pensait qu'elle était. Là. C'était pas évident. Là.
Ouais.
Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez l'observer, c'est de vous trouver une belle carte du ciel qui vous montre aussi quelques constellations bien brillantes autour pour vous guider, pour pouvoir faire votre observation assez aisément. Si vous pouvez sortir de la ville, c'est encore mieux. Puis on est chanceux, hein, l'hiver, au Québec, on a des belles longues nuits d'observation, donc on en profite.
On s'en mitoufle.
On s'en mitoufle en plus, c'est ça. Puis en plus, à partir vers la mi-décembre, c'est aussi les Géminides.
Oui, les Géminides.
Donc vous pouvez avoir une chance en plus d'observer des étoiles filantes. Et c'est une très belle pluie d'étoiles filantes qu'on connaît moins.
Parce qu'il fait plus froid.
Oui, parce que c'est l'hiver.
Mais elle peut être plus active que les Perséides en nous, en fait. Donc, beaucoup d'étoiles filantes.
Et une nuit beaucoup plus longue. Donc, oui. Encore plus de chances de voir des étoiles filantes. C'est du bonbon.
Oui. On a eu plein de projets à l'IREX. Il y en aurait trop à mentionner. C'est sûr, on a commencé ce balado. Cette année, on a eu des capsules vidéo sur YouTube qui ont été financées par les Fonds de recherche du Québec, la Petite École de l'espace. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui garde occupé ces jours-ci, Frédéric?
Ah oui, moi, ces temps-ci, c'est pas exactement la Petite École. C'est pas nos capsules exo-bouchées non plus. Moi, ces temps-ci, je travaille à 100% sur un instrument qui s'appelle NIRPS. C'est un instrument qu'on est en train de finir de construire, qui s'en va au Chili incessamment, donc on va dire en 2022, parce que 2021 est presque terminé, mais très, très bientôt. Et avec cet instrument-là, qui est en fait la petite sœur de l'instrument Spirou, on va être capable de détecter ou de confirmer des exoplanètes autour d'étoiles pas trop loin du Soleil. Mm-hmm. Donc, c'est un instrument qui est très, très excitant qu'on a construit ici, au Québec, à l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université Laval et plein de partenaires internationaux qui sont en France, qui sont au Brésil, qui sont en Espagne et aussi avec l'ESO et donc le Chili. Donc, c'est ça qui me tient occupée, là. Emballer cet instrument-là, vérifier que tout fonctionne, l'envoyer au Chili, c'est quand même un travail qui n'est pas négligeable.
Oui, hein, je te vois pas très souvent, même en ligne, parce que tu es occupée là-dedans, dans les boîtes et les boulons et tout. Et tout récemment, tu étais à Québec, justement, pour empaqueter les morceaux de NIRPS pour l'envoyer au Chili.
Ah oui, parce que c'est comme faire un déménagement de l'enfer. Donc, je suis sûre que vous avez tous déjà déménagé. Déménager, c'est jamais agréable. On fait ses boîtes, puis là, on écrit sur notre boîte verte, on écrit fragile, on oublie que c'était notre boîte verte, que c'était écrit fragile, on a des accidents de verre. Bon, ici, on ne peut pas se permettre d'accident. En plus, il faut détailler exactement ce qu'on amène. Donc, si on a 12 fourchettes, il faut qu'on écrive qu'on a 12 fourchettes. Bon, dans notre cas, on n'a pas de fourchettes. Mais, mais on a, par exemple, du fil, on a des ampoules, on a des fuses, on a plein de choses. Donc, il faut faire une liste très, très détaillée de ce qu'on amène, de combien on en a. Mm-hmm. Et on a une quantité de matériel qui est quand même pas négligeable.
OK.
Donc, ça demande toute une logistique.
Et tu vas aller au Chunis l'année prochaine pour dépacter les boîtes que tu empactes.
Oui, exactement. On va être plusieurs, en fait, une belle équipe là, à aller au Chili sur une durée d'à peu près 2 mois. Okay. Pour pouvoir monter l'instrument, le faire fonctionner jusqu'à temps qu'on puisse enfin avoir les premières lumières. Donc ça, c'est quand les premiers photons d'une étoile vont rentrer dans notre instrument.
Est-ce que tu es déjà allé au Chili, toi?
Je suis jamais allée au Chili.
Ah, ça va être ta première fois. Oui. Ah, c'est le fun, ça.
Oui, j'ai bien hâte.
Parfait.
Et toi, Nathalie, qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci?
Moi, je suis vraiment complètement submergée par des choses reliées au télescope spatial James Webb. Donc, c'est un super beau projet mené par la NASA avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne qui en fait partie. Et la contribution canadienne, c'est un instrument qui a été partiellement conçu par des membres de l'IREX, des personnes à l'Université de Montréal et d'autres Canadiens ailleurs. Et donc, moi, je fais partie de la mission, étant la scientifique chargée des communications. Et il y a plein de choses à communiquer en ce moment. Et c'est justement le sujet principal de notre épisode aujourd'hui, le télescope spatial James Webb.
Oui, parce que je pense qu'en décembre 2021, on peut pas s'empêcher de parler du télescope spatial James Webb. Il est sur les lèvres de tous les astronomes, il est sur les lèvres aussi de beaucoup de gens, parce que c'est un gros projet qui s'en va dans l'espace.
Oui, enfin. Donc aujourd'hui, on va vous parler du télescope Webb. On va vous dire un peu c'est quoi sa mission, c'est quoi son but, c'est quoi la contribution canadienne importante et aussi de l'Université de Montréal. Et on a la chance d'avoir comme invité le chercheur principal de la mission au Canada et le directeur de l'OMM et le directeur de l'IREX et professeur titulaire à l'Université de Montréal, René Doyon. Alors, aujourd'hui, on parle du télescope spatial James Webb. Moi, ça fait plusieurs années que j'en parle, mais maintenant, on entend vraiment parler de ce télescope-là partout. C'est vraiment excitant. C'est quoi exactement? Donc, j'aime l'introduire comme le successeur du télescope Hubble, parce que Hubble, la plupart des personnes, surtout les personnes qui aiment beaucoup l'astronomie, le connaissent bien. C'est un télescope qui est dans l'espace, qui fait des super belles découvertes et des superbes images depuis plus de 31 ans maintenant. Mais il commence à se faire vieux un peu, ce télescope-là. Hein?
En effet, toutes les images qu'on voit en astronomie ces temps-ci ou dans les dernières années ont au moins une petite composante là, qui vient de Hubble, parce que c'est vraiment un télescope qui a été marquant là, dans les dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il a terminé sa vie, mais en effet, il commence à se faire plus vieux. Et bon, il faut noter ici que le télescope spatial James Webb, c'est pas en fait le remplaçant.
C'est ça, c'est pour ça qu'on dit successeur, parce qu'on espère qu'il va avoir du chevauchement entre les deux missions. Hubble, on ne le met pas à la retraite jusqu'à temps qu'il peut vraiment plus fonctionner. On va vraiment essayer d'en soutirer toute la science possible. Mais c'est très complémentaire comme mission, ces deux missions-là.
Exactement. Ce ne sont pas des jumeaux. Ce sont en fait des télescopes très, très différents pour plusieurs raisons. Bon, on peut penser d'abord à la position.
Oui.
Le télescope Hubble est relativement proche de la Terre.
Et c'est pourquoi on a pu le réparer. Il y a eu des débuts un peu difficiles. Les miroirs avaient des aberrations et donc on a dû y mettre des lunettes avec le bras canadien en 1993, 3 ans après son lancement. Mais on a pu le faire justement parce qu'il est seulement 540 km au-dessus de nos têtes. Mais Webb, lui, parce qu'il va regarder un type de lumière qu'on appelle l'infrarouge, on doit le mettre loin de la Terre parce que la Terre rayonne beaucoup dans l'infrarouge. Donc, il va être à 1,5 million de kilomètres de la Terre. On n'a jamais envoyé un humain aussi loin que ça. Donc, on ne pourra pas le réparer si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais pourquoi l'infrarouge? C'est un type de lumière qui est invisible pour les humains, mais il y a plein de choses intéressantes qui rayonnent dans l'infrarouge. On peut penser aux exoplanètes que tu aimes beaucoup, les naines brunes aussi, Frédéric.
Oui, les bébés exoplanètes, par exemple, sont vraiment très brillantes. Les exoplanètes, en général, sont plus brillantes aussi dans l'infrarouge. Les naines brunes, mes objets favoris, qui sont plutôt magenta, rappelle hein, que c'est un objet qui est entre les planètes et les étoiles, ni l'un ni l'autre exactement. Mais il y a aussi tout plein de choses qui peuvent être observées avec cette lumière infrarouge, comme par exemple les toutes premières galaxies qui se sont formées il y a vraiment très, très longtemps, là, au tout début là, de notre univers.
Oui, ça, c'est un phénomène assez intéressant parce que ces toutes premières galaxies rayonnaient très, très, très fort dans l'ultraviolet et la lumière bleue, qui sont des types de lumière qui sont plus énergétiques que la lumière visible ou infrarouge, en fait. Mais à cause d'un phénomène qui s'appelle le décalage au rouge ou le redshift, ce qui est causé par l'expansion de l'univers. Cette lumière est étirée lors de son voyage de la galaxie elle-même jusqu'à nous ou jusqu'au télescope Webb. Et donc, la lumière ultraviolette ou bleue est étirée vers l'infrarouge. Donc, pour les observer, on ne peut pas les observer dans l'ultraviolet, on doit les observer dans l'infrarouge. Et ces toutes premières galaxies étaient donc invisibles pour Hubble, mais seront visibles pour le télescope Webb.
Tu fais un point intéressant ici là, quand tu as dit pour nous jusqu'à Hubble ou jusqu'à James Webb. Bon, des fois, on peut avoir l'impression qu'on met un télescope dans l'espace pour se rapprocher de nos cibles. C'est pour ça qu'on a mis James Webb beaucoup plus loin à 1,5 million de kilomètres, c'est pour être plus proche. 1,5 million de kilomètres, ça semble loin. Mais dans notre système solaire, c'est en fait pas si loin que ça.
Non, on peut penser à la planète Mars, qui est une de nos planètes voisines, qui se retrouve dépendant de où elle se trouve sur son orbite et où nous, on se trouve sur l'orbite de la Terre. Ça peut être à 250 millions de kilomètres, quand même beaucoup plus loin que Webb. Donc, on se rapproche pas vraiment des étoiles. C'est pour d'autres raisons qu'on l'envoie à 1,5 million de kilomètres.
Oui, c'est ça. Je fais un peu la comparaison. C'est comme si je prenais une échelle puis que je montais une marche. Je suis plus proche de la Lune, mais pas vraiment.
Pas vraiment beaucoup plus proche de la Lune. Donc, c'est super intéressant comme mission. En plus de tout ce qu'on a déjà mentionné, on va étudier des trous noirs, la nature de la matière sombre, la vie des étoiles, de leur naissance dans des pouponnières d'étoiles jusqu'à leur mort, où elles deviennent des naines blanches, des trous noirs, des étoiles à neutrons. On va aussi étudier des explosions kilonova qui créent la synthèse d'éléments très, très lourds dans la table périodique. Plein de choses différentes à faire. Aussi étudier des mondes dans notre système solaire à nous aussi, un peu plus proche de nous.
Ben oui, autant dans notre système solaire qu'à l'extérieur, le télescope Webb va être vraiment primordial, va être vraiment une pièce maîtresse dans l'observation et dans l'étude de notre univers.
Absolument. Et puis, tout ça, c'est facilité par la collaboration extraordinaire de plus de 10 000 scientifiques, ingénieurs, etc., partout au monde, qui ont permis le développement, la création et bientôt le lancement et les opérations de ce télescope. Et une autre différence entre Webb et le télescope Hubble, c'est la contribution importante, l'implication importante du Canada dans cette mission.
C'est vrai, parce que pour ce qui était de Hubble, il y a plusieurs Canadiens qui ont réussi à avoir du temps d'observation, mais le Canada n'avait pas une place aussi importante que dans le télescope Webb. Dans le télescope Webb, il y a 4 instruments et il y en a un qui est canadien, qui a été conçu au Canada, beaucoup à l'Université de Montréal. Cet instrument s'appelle, c'est un instrument double
c'est oui, ça. C'est ça.
C'est un instrument qui s'appelle
un 2 pour 1.
FGS NIRIS, donc il y a deux parties ici. Et ces deux parties, FGS en particulier, là, c'est une partie qui est essentielle au fonctionnement du télescope en entier. Sans FGS, on n'arrive pas à vraiment regarder une étoile avec précision. Donc, c'est ce qui nous permet de guider le télescope et ce qui nous permet de vraiment bien voir tout ce qu'on veut observer, peu importe l'instrument qu'on utilise.
On peut y penser un peu pour ceux à la maison qui font de l'astronomie. On sait que les étoiles semblent bouger au-dessus de notre tête. C'est causé plutôt par la rotation de la Terre. Mais on doit avoir des systèmes de guidage sur les télescopes, justement, surtout si on fait des longues expositions pour prendre des images d'objets un peu moins brillants. Et donc, on doit bien pointer vers ces étoiles et vraiment les traquer dans le ciel. On n'a pas la rotation de la Terre pour Webb dans l'espace. Cependant, le télescope lui-même bouge et vibre aussi. Et donc, le FGS, le détecteur de guidage, doit avoir une précision incroyable, équivalente à voir quelqu'un qui cligne des yeux à Toronto si nous, on est à Montréal. C'est vraiment incroyablement précis. C'est le détecteur de guidage le plus précis pour n'importe quel télescope spatial.
Mais ça m'amène quand même à une question que je vais te poser. Parce que le télescope spatial James Webb, ça fait très, très longtemps qu'on en entend parler. Très, très longtemps. Bon, moi, quand j'ai fait mon bac, il y a quand même quelques années, on en parlait beaucoup. Je pense que les premières dates de lancement, on était à quoi? 2005, 2008?
2008, oui.
Donc là, on est rendu en 2021. Et une question qu'on entend souvent, c'est est-ce que la technologie, entre le début des années 2000, où le télescope a été imaginé, commencé à être construit, jusqu'à 2021, est-ce que la technologie, maintenant, est rendue un peu caduque?
Désuète, j'ai entendu beaucoup cette question-là. C'était vraiment, même lorsqu'elle a été créée, c'était de la technologie de fine pointe où on inventait des nouvelles techniques pour l'instrument canadien en particulier. Et puis notre invité va pouvoir nous en dire un peu plus. Il y a eu des revirements assez singuliers. Il y a eu complètement un revirement où l'instrument initial a été scrappé et on a dû inventer un nouvel instrument à la fin des années 2000, en une année seulement, qui a été mis justement sur le dos du FGS, le détecteur de guidage, qui a été ensuite livré en 2012 à la NASA. Donc, c'est des instruments qui ont évolué beaucoup pendant le développement lui-même, pendant les années 2000. Et c'est tellement à la fine pointe que même s'il a été livré en 2012, ça continue d'être des instruments vraiment, vraiment à la fine pointe de la technologie, donc vraiment pas désuète.
Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'autres télescopes comme ça qui ont été lancés dans l'espace. Donc, ça reste encore tout à fait unique.
Oui. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment des partenaires de partout au monde. Au Canada, on peut mentionner l'Agence spatiale canadienne, bien sûr, qui a mené le bal de toute cette opération. Du côté industriel, Comdev, qui est maintenant Honeywell Canada, a vraiment fait beaucoup du travail de la conception, de la construction des instruments eux-mêmes. À l'Université de Montréal, on a une super belle équipe qui a vraiment eu la vision scientifique de la mission, des objectifs scientifiques de l'instrument canadien. Et ça, c'est l'autre instrument, l'instrument scientifique NIRIS, qui est une caméra et un spectrographe sans fente dans le proche infrarouge. C'est René Doyon, notre invité d'aujourd'hui, qui a mené cet instrument-là. Et c'est pas une coïncidence que c'est un instrument qui est vraiment parfaitement conçu pour étudier l'atmosphère des exoplanètes, en plus d'autres objets. Donc, on va en parler avec lui dans quelques instants.
C'est quand même excitant de l'avoir avec nous aujourd'hui.
Oui, mais on l'a tous les jours avec nous. C'est quand même assez fantastique.
Oui, c'est vrai, on travaille avec lui tous les jours.
Oui, absolument.
Donc, on a aujourd'hui avec nous René Doyon, qui est plein de choses, hein, qui porte beaucoup de chapeaux.
Plein de titres. On a toutes vraiment trop de titres à l'IREX, je dois dire, mais
oui,
lui,
c'est trop compliqué.
Je pense que lui, il gagne le championnat du nombre de titres. Donc, professeur titulaire à l'Université de Montréal, le directeur de l'IREX, le directeur de l'OMM et le chercheur principal de la contribution canadienne de James Webb. Est-ce que tu as quelque chose d'autre?
Non, ça suffit. Hein. Non.
Tu peux rajouter, je sais pas...
Cuistot, bûcheron...
Oui, ça, effectivement. Moi, je suis bûcheron à misère.
Ouais, c'est bon. On va rajouter ça dans tes titres maintenant.
Oui, donc toi, vraiment, le lancement de James Webb, c'est... même pas la conclusion, c'est le début d'un projet, mais qui a vraiment pris une envergure incroyable dans ta carrière.
Ben oui, là, c'est effectivement le début. On peut le voir comme étant l'achèvement de quelque chose, mais réellement, c'est vraiment le début de quelque chose, même si ça a été très, très long, là, 20 ans. Là. Mais en fait, c'est un peu surréel. Là,
Est-ce que tu commences à y croire?
Bien là, je commence à y croire. Là on est T-moins 20, ou en tout cas, oui, 20, c'est ça, T-moins 20. Bien sûr, j'y crois. Là. C'est les préparatifs pour aller à Kourou et tout. Et donc, je vois que c'est réel.
Ton anxiété est rendue où?
Ça va. je pense que ça va être la journée même là, que je vais commencer à le sentir pour vrai. Là, puis, mais oui, je commence à sentir les papillons. Là.
OK. Est-ce que tu peux parler un peu du début de ton implication dans le projet?
OK. Comment on se retrouve à être choisi ou à décider de travailler sur un télescope spatial comme ça?
Ben, en fait, je me rappelle comme si c'était hier. C'est un coup de téléphone, en fait. C'était en 2001, en novembre 2001. Je reçois un coup de téléphone de Marsha Rickey. Marsha est la chercheure principale de l'instrument NIRCam, un des quatre instruments de Webb. Et ben à l'époque, le Canada, en fait, ne fournissait que le système de guidage. On n'avait pas d'instrument scientifique, mais il y avait déjà un intérêt d'avoir le Canada dans le projet. Et en fait, Marsha voulait avoir des Canadiens pour faire un module de son instrument qui s'appelle les tunable filters, des filtres ajustables. Et ben elle savait qu'au Canada, l'expertise infrarouge était au Québec. Puis elle me connaissait à cause
du Mont Mégantic, entre autres.
Entre autres, oui. Entre autres. C'est vraiment, l'astronomie infrarouge a démarré au Mont Mégantic. Ben écoute, elle m'a appelé. Elle dit écoute, René, elle dit, j'aimerais ça que tu joignes mon équipe. On fait une proposition à la NASA pour l'instrument NIRCam. Et j'aimerais que tu t'occupes des tunable filters avec l'industrie canadienne. Est-ce que ça tente? Je dis, ben waouh, c'est super excitant.
Et
j'ai dit, quand est-ce qu'on lance le télescope déjà? Ah, pour l'instant, le télescope est lancé en 2008. Oh, wow, c'est un peu loin, hein? pourquoi pas? Alors, c'est comme ça. Mais tu as tout à fait raison, Nathalie, c'est vraiment en lien avec l'Observatoire du Mont-Mégantic. C'est pas un hasard que c'est un Québécois qui est en charge de ce projet-là, c'est que l'expertise infrarouge est née vraiment dans le dôme du Mont-Mégantic.
Puis elle a beaucoup évolué depuis.
Elle a beaucoup évolué, oui.
Donc, on pense à des détecteurs avec un pixel, deux pixels.
Oui, oui. En fait, c'est assez étrange parce que, bon, là, tu fais référence, en fait, à mes travaux de maîtrise. Et donc, là, on est en 1985. Et oui, mon projet de maîtrise, c'est faire en fait un instrument, un spectromètre infrarouge, assez étrangement, qui utilisait un Fabry-Perot, qui est le même principe que les filtres ajustables de NIRCam. Et bon, c'était avec mon mentor et collègue maintenant, Daniel Nadeau. Là. C'est vraiment Daniel qui a parti toute l'astronomie infrarouge. Mais effectivement, notre instrument à l'époque n'avait qu'un seul pixel. Et un point intéressant à mentionner, en fait, vraiment le tout début de ça pour moi, là, c'était en 1982, mon premier stage d'été avec Daniel qui m'avait engagé. Et ma tâche, c'était de participer au développement d'un système de guidage du télescope.
Ah.
Donc, vous voyez le lien, là, je suis chercheur principal de deux instruments qui, initialement, étaient des filtres ajustables et bien, aussi un système de guidage. Donc, j'ai vraiment commencé ma carrière à faire un système de guidage puis bien, faire des filtres ajustables.
Oh. Puis ça a continué pendant longtemps, là, donc tout ça.
Oui, voilà. Bien, évidemment, les choses ont évolué beaucoup. Hein. Donc, notre instrument canadien a évolué beaucoup là, au fil des années. Là.
Oui. Qu'est-ce que ça fait exactement un chercheur principal d'un instrument?
Bon, alors plein de choses. C'est-à-dire, ça doit. D'abord, c'est le grand chef. Là. C'est lui qui doit coordonner toute une équipe. Évidemment, ce n'est pas un travail qu'on fait seul. On fait ça avec plein d'autres mondes. Hein. Donc, il y a toute une équipe scientifique qui doit assister le projet. Mais la tâche principale, c'est de coordonner avec les partenaires. On parle d'un travail international. Il y a l'industrie qui est impliquée. Il y a l'Agence spatiale canadienne. Donc, il y a plein de requêtes de toutes sortes qui arrivent d'un paquet de monde. Puis, bien, ça tombe sur le PI, disons, mm-hmm. là, pour avoir les premières informations. Puis, mais c'est un travail d'équipe et le PI, je vois vraiment comme un chef d'orchestre.
C'est un côté de l'astronomie essentiel, mais qui n'est pas tout le temps bien compris par le public. Ils pensent qu'on est tous des rêveurs qui regardent des télescopes et tout le monde travaille dans leur coin et tout, mais il y a vraiment un travail de gestion incroyable dans l'astronomie.
Tout à fait, mais ils ont raison. Moi, je suis avant toute chose un grand rêveur. Je pense qu'il faut être un peu rêveur pour faire ce genre de choses-là. Mais oui, tu as tout à fait raison. Et surtout, maintenant, les grands projets internationaux, ça implique des grandes équipes. Donc, il y a beaucoup d'aspects de gestion associés avec ça. Et c'est un élément qui est vraiment pas négligeable, mm-hmm. Qui a été une partie des problèmes qu'un grand projet comme James Webb a eu, là, des problèmes de gestion, de comment on fait ce grand projet-là. C'est vraiment pas simple. C'est ouais. pas juste des grandes questions scientifiques auxquelles on veut répondre.
Ouais. Oui, justement, Frédéric commence à bien l'apprendre directement avec NIRPS qu'on a mentionné un peu plus tôt dans l'épisode.
Elle s'amuse beaucoup.
Mais moi, j'aime bien ce côté-là de travail d'équipe. Parce qu'on a beaucoup la vision là, du scientifique qui travaille dans son bureau tout seul, qui écrit des choses sur un tableau transparent, puis que c'est comme ça qu'on fait tout. Là. Mais j'aime beaucoup cette idée qu'on travaille en fait beaucoup en équipe. C'est pas une idée, c'est vrai. C'est comme ça sur le terrain, c'est comme ça dans la vie.
Absolument.
Des grandes équipes, des grandes collaborations qui permettent d'arriver à des grands projets.
Tout à fait. C'est le mot clé, c'est le mot que j'essaie de faire ressortir le plus quand je parle comme ça informellement. C'est le mot équipe. Mm-hmm. Et bon, évidemment, toutes les forces sont sur moi. C'est moi le chercheur principal. Mais réellement, là, il y a toute une grande équipe derrière ça. Il n'y a pas une contribution moins importante que l'autre dans toute l'équipe. Donc, oui, c'est ça. Je suis le maestro, mais je ne sais pas de premier violon, de deuxième violon. Je n'ai pas d'orchestre. Là. Donc, il faut que tout le monde fasse son travail. Mm-hmm. Et tout le monde le fait très bien.
Donc en 2000, au début des années 2000, tu as un coup de téléphone. On t'a dit 2008. Mais là, on est rendu en 2021. Je ne sais pas si tu peux nous dire un petit peu, en quelques lignes, qu'est-ce qui s'est passé pour
oui.
que...
Bon, il y a eu des revirements aussi, de ce que je comprends, du côté du Canada en particulier.
Il y a eu des revirements. Et en fait, si, au niveau instrumental, c'est certainement le Canada qui remporte la panne. Donc, je vous fais le topo, il y avait trois instruments principaux, NIRCam, la caméra infrarouge, NIRSPEC, le spectrographe, prochain infrarouge, MIRI, une caméra dans l'infrarouge lointain qui est aussi un spectrographe. Il y avait trois instruments. Il n'y avait pas de quatrième. Et nous, le Canada, on avait toujours fait nos représentations pour avoir un quatrième instrument. On avait un morceau à travers NIRCam. Alors, un an après que je joins le projet, là, à l'époque, le télescope était un télescope de 8 mètres. Hein. Je mm-hmm. rappelle que Webb, c'est 6,5. Et là, la NASA se rend compte que, bon, ça sera beaucoup plus cher qu'on pense, beaucoup trop compliqué. Donc, c'est le moment on va réduire la taille du télescope. Mais aussi, on se rend compte que NIRCam avec US, Canada, ça va être un peu trop compliqué au niveau des interactions. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de technologies classifiées là, Et ça, c'est compliqué au niveau des interactions entre les différents pays. Donc, la NASA a choisi, OK, on va faire de NIRCam une caméra seulement américaine. Mm-hmm. Donc, en fait, le calcul qu'on faisait, c'est qu'on disait, ben oui, vos filtres ajustables sont super intéressants. C'était une machine pour vraiment détecter les premières lumières, là. Mais on disait, c'est pas absolument essentiel. NIRCam, NIRSpec et MIRI vont faire le travail scientifique pour trouver les premières lumières. Donc, vos tumor filters, comme on dit en anglais, c'est des nice to have. Mm-hmm. Donc, désolé, on vous enlève. Donc, on simplifiait NIRCam, mais de là, on enlevait les tumor filters. Et là, à l'époque, en fait, la direction du projet, elle est bicéphale. Donc, moi, je suis en charge scientifique de la contribution canadienne, mais mon collègue John Hutchings, du Conseil national de recherche, lui, s'occupe du système de guidage. Alors, quand on a cette décision-là, ben là, je m'assois avec George, John, je lui dis, ben, c'est pas de bon sens. Il y a peut-être moyen de sortir. En fait, je sais, mon background instrumental me dit, il y a moyen de sortir les tunable filters et d'en faire un instrument lui-même dans le dos de FGS. Et ben, on l'a proposé d'abord à l'agence spatiale et là, la NASA, puis ils ont dit, OK.
C'était pas dur de les convaincre?
Non, okay. Non. Probablement parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Oui, parce que ça a été plus compliqué qu'on pensait. Alors, ainsi est né le quatrième instrument canadien, le Tunable Filter Imager,
TFI. On est rendu à quelle année?
Là, on est à peu près en 2002-2003.
Okay. Et l'on vise toujours 2008?
On vise toujours 2008. Mais là, en fait, c'était bien, mais là, on commençait un peu en retard. Il faut comprendre que les autres instruments avaient déjà plusieurs années d'avance sur nous dans leur design. Donc, nous, on commençait from scratch, comme on dit en anglais, là, en chinois. Et là, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Donc, je vous fais grâce des détails techniques, là, mais essentiellement, lorsqu'on fait des tests de vibration, de choc, on voyait des petits soucis dans le truc. Ça fonctionnait très, très bien au sol, mais il y avait un souci que ce truc-là ne pourrait pas marcher dans l'espace. Et bon, il y avait aussi plein d'autres problèmes au niveau... à un moment donné, il y a eu une crise de masse. C'est-à-dire qu'il y a trop de masse dans le télescope.
Trop lourd.
C'est trop lourd. Donc, la NASA veulent couper de la masse. Et là, ils nous regardent. Tunable filter? Je suis désolé, mais on voudrait vous enlever. Donc, à un moment donné, on nous annonçait, c'est une réunion à la NASA, au quartier général. Je suis avec des collègues de la NASA. Et là, on nous apprend formellement que le tunable filter est enlevé.
Ça doit être extrêmement déprimant, ce genre de rencontre-là.
Oui, c'est ça. Alors, une partie de mon histoire dans James Webb, c'est souvent de dire non. Donc, d'abord, j'ai dit non à enlever les tunable filters.
Dans ta carrière, en général, j'ai eu comme l'impression
plusieurs fois. Et donc, cette fois-là, ben, en fait, on s'était préparé, on les voyait venir, mais on s'était préparé. Alors, l'instrument TFR, en fait, c'était deux modules. Il y avait un module court et long en termes de longueur d'onde là, pour les filtres ajustables. Et ben nous, on savait que la NASA voulait enlever de la masse, puis on craignait qu'ils nous annoncent effectivement à ce meeting-là qu'ils enlevaient le tunable filter. Alors moi, j'ai travaillé avec mon équipe industrielle, c'est-à-dire Neil Rollins, qui est un grand compagnon. Il faudrait parler de Neil un petit peu. Neil, qui est à Honeywell, à Comdev, je dis, Neil, peut-être qu'on pourrait en faire un seul tunable filter en couvrant un domaine spectral plus long puis en faisant quelques petits compromis. Et littéralement, en quelques semaines, l'équipe de ComDev et avec notre interaction a réussi à faire un nouveau design avec un seul fil ajustable plus léger.
Ah.
Et donc, quand la NASA, vous êtes là en face de moi, me disent, ben voilà, désolé, on est vraiment au niveau des kilogrammes dans James Webb, on vous enlève le tunable filter.
Mais t'étais prêt avec un plan B.
On était prêt. On dit, regardez, on pourrait faire ça. Et là, ils étaient un peu pris par surprise. Et finalement, une semaine après, ils ont dit « OK, c'est bon ». Donc, le TFI avait survécu cette crise-là, la crise de poids de James Webb. Mais bon, il reste que les problèmes techniques que j'ai mentionnés tout à l'heure, eux, étaient toujours là. Et un point tel que l'agence m'a demandé, ben René, il faudrait que tu considères un plan B. Mm-hmm. C'est-à-dire que qu'est-ce qui arrive si on n'est pas capable de rendre le fil d'ajustable fiable? Peux-tu considérer un plan B? Alors là, c'est là que j'ai commencé. Et c'est là que le travail d'équipe vraiment commence encore plus parce que je me suis assis avec toute mon équipe et on a dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment pourrait-on reconfigurer notre instrument en enlevant cet élément-là? Faut dire là, que, dans le fond, l'instrument TFI, là, c'est un instrument qui ressemble beaucoup conceptuellement à la caméra NIRCam, mm-hmm. mais plus simple, OK? Et avec une roue à fil dedans qui permet de mettre différents éléments optiques. Mais il fallait enlever un morceau. Et moi, ce que je disais à mon équipe, ben, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout en préservant les objectifs scientifiques que nous avions? Il y en avait deux gros, là, celui de chercher les premières lumières, mais je n'ai pas mentionné, mais aussi le fil ajustable permettait aussi de faire de l'imagerie à haut contraste. Ça, c'est mon domaine préféré, surtout au début des années 2000. Là. Donc, bref, en travaillant avec l'équipe, on a pensé un nouveau projet, un nouvel instrument. Et à mesure qu'on avançait là-dedans, on se rendait compte, mais il est plus puissant que TFI, cet instrument-là. Là. Et mais honnêtement, on n'y croyait pas parce que c'est juste que l'agence spatiale voulait avoir un plan B. Là. Mais là, on arrive autour de 2011 et moi, j'étais convaincu que le TFR ne me fait pas fonctionner. Mmh. Donc, j'ai annoncé à l'agence, bon, écoutez, moi, là, je m'en vais au Science Working Group. Le Science Working Group, c'est le comité aviseur scientifique du projet. J'ai une réunion le 11 juin, je m'en vais là, puis je leur annonce qu'on leur propose l'autre instrument. Il n'était pas nommé à ce moment-là, mm-hmm. on l'appelait NTFI, nouveau TFI. et là, l'agence spatiale était absolument surprise. Le président, en rencontre avec le président de l'agence, Steve McLean, à l'époque, il était vraiment surpris. Mais comment ça se fait que vous changez l'instrument? Je dis, écoute, c'est comme ça, la science évolue. Et en 8 ans, on a pu... en fait, nos problèmes sont devenus une opportunité. Mm-hmm. Tu sais, si vous me permettez... en 2001, lorsque j'ai joint le projet, c'est en fait un an après la découverte de la toute première exoplanète qui transite. Mm-hmm. Okay? À l'époque, on ne pensait pas faire ce genre de travail-là. Mais en 2007, en 2008, au moment où on étudiait l'autre instrument, ben on voyait toute l'opportunité qu'on avait là, d'avoir un mode instrumental qui permettrait de pouvoir étudier l'atmosphère des exoplanètes comme aucun autre instrument pourrait faire à bord web.
Ça me fait penser à un point, on a discuté un peu plus tôt dans l'épisode, comme quoi souvent on a comme question, est-ce que la technologie sur web, elle est caduque, désuète à cause qu'elle a commencé en 2000, même avant 2000, mais l'instrument canadien aurait peut-être un peu un edge justement parce qu'il a été conçu et construit plus tard.
Absolument, et en fait, je ne suis pas juste l'instrument canadien, on peut dire de tous les instruments, ils sont vraiment à la fine pointe de la technologie. Là. Donc on utilise encore les détecteurs qu'on a là, pour, au sol. Non, vraiment, web, c'est ce qui le distingue des autres missions précédentes, là, et vraiment à la fine pointe. Mm-hmm. Mais bref, pour finir mon histoire, c'est que on s'est rendu compte qu'on avait un instrument beaucoup plus performant. Et bon, alors je l'ai proposé au Science Working Group et le groupe l'a accepté. Mais encore une fois, c'est un moment où est-ce que j'ai pris un peu le groupe par surprise. Il faut comprendre que tout ce travail-là se faisait sous le couvert. C'était top secret. On n'en parlait pas. Et donc, encore une fois, voilà une autre réunion où est-ce qu'on nous allait nous annoncer qu'on allait remplacer les pièces optiques de TFI par des briques d'aluminium pour conserver le centre de gravité de l'instrument. Là, c'était ça qu'on proposait. Et d'ailleurs, une fois que j'ai fini ma présentation, 1h30, quelqu'un du Science Fuego a justement mentionné, alors voici, on a le choix, this, le nouveau instrument, or aluminium brick, les briques d'aluminium.
Là, c'est quand même tout un choix crève-cœur là, de ce...
Ben voilà, et tout le monde ont été pris par surprise, mais je me rappelle le chercheur principal de NIRSpec qui est maintenant à la retraite, mais que j'ai le plus grand des respects, qui est un de mes mentors aussi dans ce projet-là, qui m'avait dit, en anglais, en français, dit « René, c'est fantastique, mais impossible, tu peux pas faire ça en un an. » Parce que voilà, on avait une contrainte qu'il fallait faire cet instrument-là en un an. Bon, il faut dire qu'on avait fait beaucoup de plaintes. C'était pas juste un concept. On avait fait beaucoup de travail en amont, surtout au niveau de mon équipe immédiate à l'Université de Montréal, aller chercher des devis pour les nouvelles pièces optiques qu'on voulait avoir. Donc, on était quand même prêts. Là. Mm-hmm. Puis, il y a une pièce optique assez particulière dans l'Iris, là, qui... il y avait 2 places dans le monde à peu près qu'il fallait faire. Là. Et donc, déjà, on avait commencé à faire des démarches. Donc, on était quand même un peu prêts. Mais ceci dit, on avait seulement 1 an pour le faire. Et ben voilà, mais la réalité, c'est que le projet a décalé un peu de 6 mois et finalement, on a pu réussir à livrer l'instrument le 31 juillet 2012.
Ça avait l'air de quoi cette année-là?
Ah, c'était une année folle. On courait partout et voilà, on contacte un manufacturier pour faire notre pièce optique. Et à un moment donné, ben voilà quelqu'un qui me dit non encore. Il dit « René, regarde, ton truc, c'est super cool, là, mais je peux pas le faire. » Je peux pas le faire, c'est avec tout ce que tu me demandes de paperasse. Il faut comprendre que la technologie spatiale, hein, ça demande beaucoup d'étapes, puis de paperasse, etc., etc. Et mais j'avais un contact au Colorado qui, et je lui parlais personnellement. Et à chaque fois que je parlais de science, pas juste des aspects. J'essayais de l'animer.
Pour l'accrocher.
Ça, ouais, il était accroché. Mais là, il dit, Money, il dit, René, regarde, ton projet est super excitant, mais c'est trop compliqué, là, tout votre paperasse. Il dit, je sais que je peux le faire, votre truc, là, mais vous me donnez trop de contraintes. Et Marie m'a dit, ben non, je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Ben, voilà un autre moment où j'ai dit non. Et là, je retourne voir le project manager, le chargé de projet à l'agence, Carl Saad, qui est un gars absolument génial, là, qui est celui qui a assuré la transition TFI et NERIS. Et j'ai dit à Carl, écoute Carl, je sais qu'on peut faire ce truc-là, OK? Ils en ont déjà fait, mais il faut juste s'enlever la paperasse. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, disons qu'on a coupé un petit peu les coins ronds, OK? Mais je savais que c'était faisable. Et le lendemain, enfin, une semaine plus tard, je retourne voir mon collègue à Boulder. Je dis, ben, regarde, finalement, j'ai réussi à faire ça. Il dit, OK. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à le faire. Enfin, bref, c'est plein de revirements comme ça. Et oui, effectivement, dans une certaine mesure, il faut être capable de savoir dire non parfois. Mm-hmm. Et de vraiment de pousser juste aux limites qu'on peut.
Ouais, ouais, c'est vraiment incroyable comme histoire. On est rendu maintenant en 2021, en décembre 2021. Tu pars pour Kourou dans 19 jours environ. Voilà. Comment tu te sens?
Ben, très fébrile. Il faut dire que je suis très occupé avec plein d'autres choses aussi parce que...
La vie n'arrête pas.
La vie n'arrête pas. Il faut dire que... Tu sais, en 20 ans, là, tu apprends à dire, OK, ben là, je vais mettre mes œufs aussi ailleurs, pas juste dans James Webb. Donc, justement, NIRPS, dans lequel Fred travaille beaucoup. Et ben là, ça, c'était la dernière chose que j'avais anticipé, que NIRPS et Webb seraient à peu près livrés en même temps. Mm-hmm. Donc, je suis extrêmement occupé, pas juste avec Webb, mais avec d'autres instruments. Mais oui, écoute, c'est des entrevues qui se suivent sur Webb. Et oui, là, je le sens.
Mais rendu à Kourou, tu vas profiter du moment, j'espère.
Bien sûr, bien sûr. Ça sera un court moment, 8 minutes, mais quel moment?
Mm-hmm. Est-ce que tu te sens plus nerveux, anxieux, excité, juste un mélange de tout ensemble?
Oui, c'est un mélange de tout ça. Parfois, j'essaie de me voir comment je vais réagir. Je suis quelqu'un de très émotif, très, très sensible. Puis, alors, tout peut arriver. Je ne sais pas comment ce qui va se passer sur le pad de lancement. Là. Mais oui, en fait, j'aime croire que je serai... En fait, j'étais artiste, je dirais que j'aurai le trac, une bonne nervosité. Hein. Je suis très confiant. Oui, on écrit le déploiement comme les 14 jours de terreur. Là. Oui, c'est terrifiant, mais je suis forcément très, très confiant. Très, très confiant parce qu'on a pris vraiment le temps pour vérifier, retester. J'ai très confiance à toute cette équipe-là, oui, partout dans le monde.
Mais justement, qu'est-ce qui te donne le plus de trac? Est-ce que c'est vraiment le lancement, le moment où... quitte la Terre ou c'est ce long déploiement-là de 14 jours là, pendant lequel là, James Webb va vraiment souffrir?
Oh non, c'est vraiment pas l'ensemble, mais ça a évolué. Parce que, bon, il faut comprendre que nos instruments qu'on livre à la NASA, évidemment, il faut les vibrer. Là, avant donc, on les vibre selon les specs de la fusée. Mais la première fois que ça s'est fait, moi, j'étais terrifié. Mais je voyais les tables vibrantes, mais les trucs vont s'envoyer partout en l'air et ça arrive parfois, là. Mais non, mais nos ingénieurs à Honeywell, à Comdev, étaient vraiment très, 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 très bons. Et donc, OK, là, la première fois, je dis OK, je peux respirer, là. Puis après ça, ben lorsqu'on a livré l'instrument à la NASA, ben, il faut lui mettre toutes les cartes dans une boîte. Sur le télescope, on les a vibrés encore. On a mis ça avec tout le télescope. On a vibré tout le truc encore. Donc là, la quatrième fois qu'on a vibré le télescope, moi, j'emboyais d'ennui, là. Donc moi, le lancement, là, le 8 minutes, ça, je suis pas inquiet. Mais c'est quand le capuchon de la fusée se décroche, et là, il y a quatre boulons qu'il faut exploser pour décrocher le télescope. Là, c'est là que je commence à être un peu nerveux. Parce que tout ça doit fonctionner. Et sans parler des 300 autres points de défaillance potentiels qui peuvent arriver. Ça m'inquiète un petit peu.
Ça va être quand même une période des fêtes un peu stressante, là.
Ça va être une période des fêtes un peu stressante. Donc, et on ne sait pas trop comment ça va être communiqué. Hein. La NASA est très sensible avec ça, là, et je comprends, là. Mais j'aurai moyen de me brancher, là, pour voir les rapports hebdomadaires sur ce qui se passe.
Mm-hmm. Oui. Si on regarde un peu plus loin, on va présumer que tout va bien fonctionner, le déploiement, le refroidissement des instruments, la calibration des instruments du miroir. C'est quoi les grandes découvertes auxquelles tu t'attends pour James Webb?
Ah, quelle question! Ça, cette question-là, elle me tue complètement. Parce que, et je le dis, je le répète, parce que à chaque fois qu'on met en opération un grand télescope au sol, dans l'espace, puis qu'on pose la question 5-10 ans plus tard, c'était quoi la grande découverte de ça? Ben, c'est quelque chose qu'on n'avait pas planifié. Donc, mais bon, c'est sûr que on planifie des choses incroyables à faire, mais bon, c'est sûr que les deux grands thèmes de la mission Webb qui est vraiment articulée dans notre instrument, les premières lumières, j'aimerais ça que NIRIS, notre instrument, soit puisse nous pointer sur une de ces candidates-là qu'on va probablement confirmer avec l'instrument NIRSpec. Et le travail d'équipe se fait au niveau des instruments aussi. Hein? Tous les instruments sont très complémentaires avec les uns et les autres. Mais vraiment cher à mon cœur, c'est les exoplanètes. Mm-hmm. Donc, détecter une atmosphère d'exoplanètes avec de l'eau dedans, le fameux système TRAPPIST-1, là, ah, ça serait tellement excitant. Ceci dit, il y a une possibilité tout à fait réaliste que ces planètes-là, ce sont des boules de roche complètement érodées. Mm-hmm. Mais déjà, avoir cette réponse-là, ça serait déjà un pas extrêmement important dans cette grande quête là, de la recherche de vie ailleurs.
On sait bien, les résultats nuls, négatifs sont importants. Frédéric, sa thèse de doctorat, c'était un résultat négatif.
C'est tout à fait important aussi.
J'insiste, il y a d'autres étudiants comme ça qui ont un résultat nul.
Oui. Si on regarde encore plus loin maintenant que même la mission Webb, pour toi, comment tu vois la participation canadienne à cette grande mission? Est-ce que tu vois ça comme un premier pas vers la participation canadienne dans d'autres missions importantes internationales?
Bien, je l'espère, parce que la réalité factuelle, là, est que quand vous regardez en termes de production scientifique, tous les indicateurs d'impact, le Canada est vraiment sur le podium là, à l'échelle internationale. Et là, on a la chance d'être dans le plus grand projet jamais fait dans l'espace. Donc, c'est vraiment une opportunité là, pour se démarquer davantage. Et on frappe déjà à la porte. Là. Tous nos partenaires internationaux veulent le Canada dans leur projet. Le problème, c'est le financement. Et ça, pour l'instant, on ne le voit pas. Et je dois dire que ça m'inquiète un peu. Mais c'est un problème structurel. Là. Il faut vraiment s'y trouver une manière de que l'agence spatiale ait un budget récurrent qu'on puisse alimenter des grands projets. Là. Mais ce qui est clair, c'est que nos partenaires internationaux veulent le Canada dans leur projet.
Mais on a vu à quel point Hubble a changé la perception du public de l'astronomie avec ses images vraiment incroyables. On peut espérer que Webb va faire quelque chose de similaire au Canada en particulier.
Oh, j'en suis convaincu. Et ça, c'est un autre élément extrêmement important, bien sûr, la mission scientifique, mais aussi de le partager avec le public. Je ne connais pas personne qui est indifférent à cette mission-là et toute la science qu'on fait, et ben, que vous le faites très, très bien, vous deux. Là. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on va arriver à convaincre le grand public et surtout nos gouvernements à investir là-dedans. Parce que je reçois souvent une question. Oh, mais M. Doyon, c'est super beau ce que vous faites, mais regardez, on n'a pas autre chose plus utile à faire. Mais c'est une erreur de dire ça. C'est une erreur parce qu'on ne se rend pas compte comment tout ce qui est autour de nous a une racine profonde qui est la recherche fondamentale. Mm-hmm. Et donc, c'est pas un luxe, la recherche fondamentale, c'est une nécessité. Et James Webb est une belle représentation de ça.
Bon, sur ce... Oh, t'avais une autre question.
Vas-y. Je me demandais encore plus près de la maison. On a parlé du Canada, mais mettons pour l'UDM. Qu'est-ce que ça représente, James Webb, pour le futur de la recherche en astronomie ici à l'Université de Montréal?
Ben, écoutez, l'Université de Montréal est la locomotive scientifique de ce projet-là. Donc, c'est une opportunité absolument scientifique. Et ça montre, en fait, quel est le bénéfice, justement, de t'impliquer aussi proche comme ça. Quand vous regardez les demandes de temps là, qui ont été acceptées au Canada, la moitié viennent du Québec. Là. Et ça montre comment s'impliquer activement dans un projet, ça nous permet d'être vraiment à la fine pointe. Notre cerveau n'est pas plus gros que les autres. Hein. C'est juste qu'on est plus impliqué activement dans le projet et donc on est plus compétitif.
Bon, sur ce, je sais que tu es très occupé, tu as plein de choses à faire, mais merci tellement pour avoir partagé tes histoires. C'est vraiment une chance unique qu'on a d'avoir un accès aussi direct à la mission, à toutes les histoires, les revirements de cette mission vraiment incroyable qui va vraiment être une révolution dans le monde de l'astronomie.
Oui, puis un accès aussi unique à ce qui se passe maintenant puis à ce qui va se passer. Moi, en tout cas, les prochaines années, je trouve ça excitant là, d'être ici, d'être avec vous puis de voir ce qui se passe chez nous, là, vraiment, en astronomie.
Mm-hmm, donc... ben, merci à vous deux, c'était très agréable.
Donc, on te souhaite un bon lancement, un bon voyage à Kourou et un bon retour.
Merci.
Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un épisode un peu plus long, mais on en avait tellement à dire sur le télescope Webb. C'est tellement un beau sujet qui me tient à cœur et qui a envahi mon cerveau dans les quelques derniers mois.
C'est vraiment une belle façon de finir l'année 2021. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais on vise un lancement le 22 décembre. Oui, donc, si vous nous écoutez vraiment plutôt un petit peu avant, ben vous savez quand il faut surveiller. La fenêtre de lancement est très courte. Donc...
Oui, chaque jour, c'est seulement 30 minutes. Et puis, c'est très tôt le matin. C'est 7h30 du matin, heure locale pour nous, heure de l'Est. C'est 9h30, heure locale à Kourou. Donc, on se croise les doigts que le 22, ça fonctionne. Sinon, le 23, le 24, il y a des fenêtres de lancement aussi. On espère que ça décale pas trop. Mais un beau cadeau de Noël, un tout petit peu stressant quand même.
Oui, quand même, un beau cadeau de Noël, mais stressant, c'est vrai. Donc, ben, si vous nous écoutez même avant le 10 décembre, ben, vous pouvez même vous joindre à nous pour notre événement qu'on appelle AstroMille ou au Campus Mille de l'Université de Montréal. On va avoir tout un plateau de gens pour nous parler d'astronomie en général, du futur de l'astronomie sous trois visions différentes. Et donc, d'ailleurs, Nathalie va être une de ces personnes qui va nous parler d'astronomie.
Oui, je vais parler de l'astronomie via les télescopes dans l'espace. Donc, la thématique, c'est le futur de l'exploration spatiale. Le futur, c'est l'espace. Je le dis toujours, je le répète toujours, mais on peut le faire à travers des télescopes. On peut faire de l'exploration robotique. On aura une géomaticienne de l'Université de Sherbrooke, Myriam Lemelin, qui va nous parler de ça. Et on a aussi l'exploration humaine de l'espace.
Et ça va être fait avec, ben, ça va être discuté avec l'astronome, l'astronaute.
Les deux, il est astrophysicien, et astronaute, et médecin, et ingénieur, et pilote, et polyglotte.
David Saint-Jacques, oui. Qui, comme René Doyon, porte beaucoup de titres.
Oui, absolument. Donc, joignez-vous à nous si vous nous écoutez avant le 10 décembre. Si vous voulez nous voir en personne, vous devez prendre des billets sur Eventbrite. Vous pouvez aller sur le Facebook de la page du Campus 1000 dans les événements et il va y avoir des liens. Mais on aura aussi une diffusion en direct sur le Facebook du Campus 1000 et sur la chaîne YouTube de l'IREX.
Donc, même si vous nous écoutez après le 10 décembre, bien, vous pouvez quand même aller regarder cet événement-là, parce qu'on est certain que tout va bien se passer.
Absolument. Donc, vous trouverez tous les liens dont on a parlé aujourd'hui dans la description de l'épisode, dans notre site web, le www.exoplanete.umontréal.ca/les-astrophysicienne.
Avec un S.
Avec un S, oui.
Et si vous avez apprécié cet épisode, bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, les astrophysiciennes.
Et on doit toujours mentionner à la fin, ce balado ne serait pas possible, mais pas du tout sans le soutien de la Bibliothèque des sciences de l'Université de Montréal et en particulier notre magicien de la technique, Émir Chouchan.
En attendant, on se croise les doigts pour un lancement réussi pour Webb et on se retrouve en 2022.
Absolument.
Avec plein de nouvelles excitantes en astronomie.
Passez des bonnes fêtes.
À bientôt!